La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour, je vous invite à prendre votre Bible dans 2 Timothée 2, 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses.
Bonjour à tous. Un plaisir de pouvoir passer ce sabbat avec vous. Ça fait un certain temps que je n'étais pas venu à l'église de Damarie. Dans ce domaine, je ne suis pas forcément un bon membre d'ailleurs. Je ne suis pas forcément beaucoup présent, étant un peu à droite à gauche dans mes déplacements. Mais en tous les cas, toujours heureux de pouvoir vivre ce moment de culte, non seulement avec toute l'église, mais principalement aujourd'hui avec les bourgeons et les tisons. Très en forme à ce que je vois d'ailleurs, toujours, c'est le maître mot de la jeunesse. Donc, que ce soit en forme, c'est normal. Les enfants qui commencent à ne pas bouger m'inquiètent beaucoup plus que ceux qui bougent. Je vais commencer peut-être par une histoire que vous connaissez déjà, j'ai dû la dire ici, mais elle est tout à fait d'actualité pour mon sujet. Et ça remonte à quelques années, un certain nombre d'années. La décence de mon âge ne me permet pas de dire exactement combien de temps. Mais en tous les cas, j'étais jeune. J'avais entre 17 ans, je crois, de mémoire, 16-17 ans, quelque chose comme ça. Je suis né dans une région peu connue de la France, le Berry.
C'est quoi ça?
Non, bonne question. Bourges. C'est un peu plus connu, hein, Châteauroux. Et alors, il y a une expression chez nous, pour vous donner un peu l'état d'esprit que nous avions, nous, Berrichons, pure souche, des vrais, des purs, des durs, vous en avez un exemple ici. Il y avait une expression qui voulait, parce que c'est une région très agricole, hein, donc voilà, c'est principalement l'élevage dans le sud du Berry, agriculture dans le nord Berry, et on disait que dans un champ, 99 moutons et un berrichon, ça fait 100 bêtes. Donc voilà un peu l'image que nous avions, nous berrichons, que j'assume. Bon, écoutez, voilà, on n'y peut rien, hein, c'est ainsi. Le Berry est ce qu'il est, je suis très fier d'être berrichon. Maintenant, on essaye d'évoluer comme tout le monde dans du bon sens. Mais par contre, mon grand-père, qui lui était aussi, oula, berrichon de père en fils, hein, donc quelqu'un de bien ancré dans ses racines, avait une sagesse extraordinaire. Et donc, dans le jardin que nous avions, voilà-t-il pas que moi, jeune, 16-17 ans, vois mon grand-père en train de faire un trou dans la terre. Enfin, 3 ou 4 de mémoire d'ailleurs. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu plantes? Et il me répond, des pêchers. Merci, voilà, c'est exactement ça. Première réaction, waouh, ça va être génial, ça va être bon, c'est excellent. Mon grand-père, à l'époque, quand il a fait ça, il avait à peu près dans les 72 ans, par là, 70 ans, 72 ans. Donc, il plante ses arbres, et forcément, vous savez, il y a parfois des moments dans la vie, il faut poser des questions, mais pas n'importe lesquelles. Et je lui dis, ah, c'est génial, quand est-ce qu'il y aura les premiers fruits? Et là, il me répond, oh, dans 3-4 ans, il y aura les premiers fruits qui arriveront. Ça commence déjà à tourner. 3-4 ans ! Mais ça va être long ! Et il rajoute une couche en disant, et encore, les premiers fruits qui vont apparaître, je vais les arracher avant qu'ils finissent de mûrir pour que l'arbre puisse mieux s'épanouir. Et il me rajoute, il faudra donc encore attendre 2-3 ans. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je calcule dans ma tête, non pas mon âge, mais le sien. 70 plus 7, 77. Et je sors. D'ailleurs, les mots vont toujours plus vite que la pensée, n'est-ce pas ? Mais tu seras mort ! C'est là que j'ai compris, après, que j'avais peut-être été un peu fort sur ce coup-là. Et il aurait pu, je pense que certains voient très bien ce que je veux dire, il aurait pu m'envoyer... Pas une correction pour me dire tu fais attention à ce que tu dis. Pas du tout. Pas du tout. Et il me répond, mais tu sais, je ne le plante pas pour moi. Je le plante pour ceux qui arrivent après. Et là, je crois que c'était pire qu'une claque pour moi. Parce que mon grand-père, dans toute sa sagesse, venait de me donner une leçon. Une leçon qui me fait dire que il n'est pas ici sur terre pour produire quelque chose pour lui, mais bien continuer à avancer pour ceux qui arrivent, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Mon grand-père venait de me donner une leçon me disant... Je construis l'avenir, même très tard dans ma vie. Je ne pense pas forcément à moi. L'éducation et les rapports intergénérationnels ont toujours été particuliers, conflictuels. Pourtant, à tout moment, toutes les générations ont besoin les uns des autres pour apprendre et se construire. C'est en tous les cas ce jour-là ce que j'ai compris. Ce n'est pas pour rien si très tôt l'Église adventiste a été sensible à l'éducation. L'éducation pour les enfants dans les familles, l'éducation scolaire. Ce n'est pas pour rien parce que la construction d'un enfant et d'une personne se fait sur une longue période. C'est même quelque chose de très important et qui se vit au quotidien. Le texte qui est fondateur dans notre Église, un des textes qui est fondateur dans notre Église pour l'éducation, c'est Deutéronome au chapitre 6. Alors, il est très connu parce que c'est le schéma Israël qui est récité tous les vendredis soirs chez les Juifs et qui est récité systématiquement dès qu'il y a quelque chose d'important chez les Juifs. Et lorsque l'on prend Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 9, il est dit... Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Phrase reprise d'ailleurs par Jésus. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ce texte fondateur a parfois été pris uniquement sur l'importance du culte de famille. Les enfants qui se retrouvent tous les jours chez eux. Et quel rapport y a-t-il entre les parents et les enfants dans la journée, le matin, le soir? Qu'est-ce que j'apporte à mon enfant de cette parole de Dieu le matin et le soir? J'ai presque envie de dire le problème au jour d'aujourd'hui. D'abord, un, ça ne se fait pas forcément beaucoup, culte de famille, ce qui est un peu dommage, parce que c'est là qu'il y a un partage entre les familles. Mais parfois, on s'est arrêté que à cette partie-là. Or, le texte va plus loin. Tu en parleras dans ta maison, certes, mais aussi en voyage. Ça signifie, en d'autres termes, chaque fois que l'on se déplace, un élément de la vie que je peux vivre dans une journée peut être sujet à réflexion, à apprentissage, à remarque de la parole de Dieu pour permettre aux enfants et aux jeunes de grandir. Ma relation avec les enfants et les jeunes sont constants. Ce n'est pas parce que je fais un culte de famille qui commence à telle heure et qui finit à telle heure où dedans il y a eu des chants et un texte biblique que cela suffit. L'apprentissage et l'éducation intergénérationnelle passent par tous les moments de ma vie que je partage avec mon enfant, mes enfants. Si vous me dites, mais on ne partage rien, alors là, c'est un peu problématique. L'importance de cette relation qu'il y a est quelque chose qui se vit au quotidien. Vous allez me dire peut-être que ça concerne les parents. Seulement voilà. Ça concerne les parents. Seulement voilà. Dans l'Église, ne dit-on pas que nous sommes une grande famille ? Ne dit-on pas que nous sommes interrelationnels ? Ne dit-on pas que la grande famille va depuis les tout-petits jusqu'aux plus âgés ? Et qu'est-ce que je vis ? Et qu'est-ce que je partage entre nous ? Entre chacun, de toutes les générations ? Qu'est-ce que j'apporte ? Comme parole de vie. Je précise bien ici parole de vie. On pourrait penser parole de Dieu. Mais pour moi, parole de vie, ça va plus loin. Une parole de Dieu, le Seigneur t'aime. Va et ne pêche plus. Ok. Va et ne pêche plus. Ok. Ça, on l'a appris par cœur. Mais comment je le traduis dans la vie ? Comment j'accompagne ? Comment je soutiens ? Comment je peux être un mentor pour l'enfant ou le jeune ? Ou même un mentor entre nous, celui qui va aider et accompagner l'enfant ou le jeune. Nous ne sommes pas là pour bourrer le crâne des enfants de textes bibliques, mais bien qu'ils sachent les utiliser, les vivre dans leur vie de tous les jours. Nous sommes là non pas pour faire des bons membres, mais bien pour en faire des disciples. Et les disciples suivent le maître dans cette démarche de la vie de tous les jours. Alors, pause, et je vais avoir besoin d'un bourgeon. Alors, est-ce qu'il y a un bourgeon qui veut venir avec moi ? Ils sont en train de me regarder en me disant « Qu'est-ce qu'il va nous faire, le gars ?» Allez, courage, viens, tu verras. Tu vas pas être tout seul de toute façon parce que tu vas avoir des acolytes qui vont t'aider. Il me faudrait un tison. Ah ben, oula, calme. Alors, c'est gentil, mais ce que j'ai à faire, ça va pas aller. Je vais prendre le plus grand, je suis désolé. Moi, tu vois, c'est gentil la spontanéité, c'est super. Comme quoi, j'aurais dû être plus précis sur ce coup-là. Tu vois, t'es pas tout seul, il y en a un autre. Et il me faudrait un ou une, parce que du coup, je suis un peu embêté, j'ai deux garçons. Un ou une animatrice ou animateur. Allez, courageux, c'est bien, merci. Non, mais c'est pour faire une représentativité de la gente féminine. Alors voilà. Je vais te demander de t'avancer, juste là, voilà. Et je vais demander... Alors, comment tu t'appelles ?
Raphaël.
Merci. Oh oui, en effet, pardon. Oula. Raphaël, c'est bien.
Raphaël, je vais demander à Théo. Un nom prestigieux aussi, Théo. Hein? Oh là là. Je vais demander à Théo de te soulever, mais de la façon suivante. Tu vas garder tes bras très droits, forts, tu sais, très solides. Il va te prendre en dessous et il va se soulever. Donc du coup, il faut que tu mettes tes bras très solides. D'accord? Tu as compris? Alors vas-y, essaye de le soulever. Oh, bien, 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 bien. Ok, tu peux le baisser. Merci. Alors maintenant, tiens, vas-y, viens là. Est-ce que tu penses que tu peux faire la même chose pour Théo? Il me regarde de travers, je me dis. Est-ce que tu crois? Tu veux essayer ou pas? Non, non, c'est pas la peine. Tu vois, il a de la sagesse cet enfant, il a de la sagesse. Je vais te demander de te mettre devant aussi, de faire pareil, et je vais demander à ton animatrice de faire ça. Vas-y. Waouh, très bien. Est-ce que tu peux faire la même chose pour... Enfin, je comprends pas, moi. Moi. Enfin, je comprends pas, moi. Moi. Non plus. Moi. Incroyable. Ah, il y en a qui sont positifs ici. Non plus. Moi. Incroyable. Ah, il y en a qui sont positifs ici. Très bien, maintenant on va changer. Alors, incroyable. Ah, il y en a qui sont positifs ici. Très bien, maintenant on va changer. Alors, tu restes là juste. Je vais te demander, non pas de rester les bras droits, mais tu ne bouges pas les pieds, tu vas te laisser tomber en arrière. Et elle va te retenir. Donc vas-y, lâche-toi en arrière. Ah, ok. Ça fait peur ou ça ne fait pas peur? T'as confiance? Ouais, c'est bon? Alors, ça va, tu peux... Ok, vas-y, reviens. Tu veux essayer aussi? Ok. Merci beaucoup. Très bien, vous pouvez repartir à vos places.
J'aime beaucoup l'honnêteté de Raphaël pour la bonne et simple raison, c'est que à tout âge, on peut faire des choses et ne pas faire des choses. À tout âge, il y a certains qui peuvent soutenir les plus petits, mais pas l'inverse. À tout âge, il y a un moment donné où on peut avoir confiance en quelqu'un ou pas. Ça s'éduque et ça s'apprend. Il y a dans notre période de vie trois grandes périodes, grosso modo. Il y a d'abord quatre grandes périodes, pardon. Il y a d'abord celle que je ne vais pas forcément énormément parler, c'est les enfants que l'on a eus tout à l'heure, c'est-à-dire bourgeons, tisons et même les explos, où je suis dans l'apprentissage de la vie, la découverte de la vie. Je prends de mes parents, j'apprends de mes professeurs, je prends de mes parents, j'apprends de mes professeurs, j'apprends de mes animateurs à l'église. Je découvre véritablement comment me comporter dans la vie devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est l'apprentissage premier, basique. Et puis, c'est accumuler les connaissances. Et puis, à un moment donné, autour de 16-18 ans, commence une autre période. La période où c'est l'apprentissage... Et répondre à une question, qui suis-je? Et répondre à une question, qui suis-je? Parce qu'au début, pour les bourgeons et les tisons, j'aurais pu poser la question, mais tu es le fils de qui? Tu es qui, toi? Alors, chacun a répondu, Raphaël, d'autres Théo, et d'autres les différents prénoms des uns et des autres. Je suis le fils ou la fille de mes parents. À partir de 16-18 ans, il y a une période automatiquement où les jeunes se posent la question « Qui suis-je ? » Est-ce que je suis toujours enfant de mes parents ? Ou est-ce que je commence à devenir ma propre personne ? Avec mes choix, avec ce que je crois, avec ma propre foi et puis la foi de mes parents. Et ce moment-là est capital et indispensable. ça n'enlève pas le fait que je suis toujours fils ou fille de mes parents. Mais je dois construire ma vie autour de ce que je suis vraiment. D'où le fait qu'à un moment donné, eh bien oui, on remet parfois la foi en question, l'interrogation de la foi à quoi ça sert, pourquoi la foi, pourquoi Dieu, pourquoi les règles, pourquoi faut faire ci, pourquoi faut faire ça, et alors je vous dis pas, les grands adultes finissent par se dire, jamais, gonflons les questions de ce genre, ça fait des années qu'on te dit que c'est comme ça, pourquoi tu remets en question la chose ? Parce que l'apprentissage passe par cette étape-là en disant « Oui, en effet, je suis Pascal et je dois accepter, vivre, exprimer ma propre foi et puis la foi de mes parents. » Et ça marche pour tout, pas uniquement la foi, mais bien aussi toutes les connaissances que nous pouvons découvrir, remettre en question parfois d'ailleurs certaines connaissances toutes faites, et se dire à un moment donné, je construis mon identité. Puis quand tu arrives au bout des 30-50 ans, alors c'est souvent la remise en question. Ah, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vaux quelque chose ? Est-ce que je vaux quelque chose ? Est-ce que je suis actif de quelque chose ? Est-ce que véritablement, j'ai un sens dans ma vie ? Et c'est là souvent qu'on affine un peu nos sens. Alors, pour une image un peu générale, vous entendez souvent parler les grands directeurs généraux d'une banque ou d'un MBA de commerce, business, de business, d'un seul coup se retrouvent dans le fin fond de la France pour devenir berger. Pourquoi ? Parce qu'en effet, à un moment donné, on a besoin de revenir sur le sens de la vie que j'ai. Ça ne remet pas forcément en question ma foi. Mais à un moment donné, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je produis vraiment ? Quel est le sens de ma vie ? Puis la dernière étape, alors pour les tout-petits, ils en sont loin, ils sont même loin de cette idée-là, mais pour d'autres, à partir de 50 ans, à partir de 50 ans, on sait très bien que maintenant la question se pose, qu'est-ce que je vais laisser ? Qu'est-ce que je vais pouvoir m'investir pour laisser une trace, pour laisser quelque chose, pour apporter quelque chose de nouveau, de plus important, pour laisser une marque de la vie qui continue à être le moteur même de ma vie de tous les jours. C'est grosso modo, je ne suis pas là pour étaler toutes les parties de l'éducation, mais c'est pour montrer qu'à un moment donné, à tout moment de notre vie, on a besoin des uns des autres. Moi, mon grand-père, il était largement dans cette partie, m'investir en quoi ? Je m'investis dans cette partie, m'investir en quoi ? Je m'investis à planter des arbres pour ceux qui viendront après. M'investir en quoi ? Quand je suis une personne âgée, mon souci est de dire qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants ou petits-enfants ? Qu'est-ce que je peux leur apporter encore ? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres enfants ou aux petits-enfants, à ceux qui m'entourent dans l'Église ? Qu'est-ce que je peux apporter ? M'investir en quoi ? L'éducation est toujours quelque chose d'important. Dans la Bible, ce n'est pas une question est toujours quelque chose d'important. Dans la Bible, ce n'est pas une question de société, c'est une question de vie humaine. Dans la Bible, vous avez les éléments partout. Moïse avait besoin, dans toute sa sagesse, dans toute sa relation avec Dieu, dans tout ce qu'il connaissait de Dieu, des hommes et des femmes pour s'occuper du peuple de tout âge. Il avait toujours besoin, alors qu'il était largement dépassé en âge, les critères selon notre société d'ailleurs, largement dépassé en âge, besoin d'un homme et d'une femme pour l'aider. Abraham, pareil. Et celui qui a toujours eu souci de cela, c'est bien Jésus. Jésus qui est parti beaucoup plus vite que la moyenne d'âge que nous pouvons connaître, a eu un seul objectif en lui, former des disciples pour qu'ils forment d'autres disciples, pour qu'ils donnent à ceux qui sont autour de lui. Alors j'aurai un dernier élément aussi à rajouter à cela, qui rejoint un peu cette difficulté qu'il y a entre l'âge d'accumulation des connaissances, jusqu'à 18 ans, et cette remise en question. Nous sommes tous parents ou adultes, sans forcément avoir d'enfants, qui aimerions bien que l'enfant qui vient ou le jeune qui vient puisse être tip-top nickel, avec toute la sagesse qu'il va avec, avec toutes les options possibles positives qu'il pourrait y avoir en lui. Pour que dès qu'on lui dit quelque chose, il le fasse sans broncher. Pour que quand il doit choisir quelque chose dans sa vie, il le fasse avec sagesse et absolument sagesse, comme moi j'ai appris. Parce qu'on a ce côté où on ne voudrait surtout pas qu'ils aient les mêmes soucis que moi quand j'étais jeune. Seulement voilà, l'apprentissage de la vie passe par donner la permission de se tromper. Parce que se tromper, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce qui est négatif, c'est de rester dans la situation d'erreur. C'est au niveau de ces erreurs que l'on apprend à la vie. C'est au niveau de mes relations avec Dieu dans mes erreurs que j'apprends de la vie. L'exemple que je peux donner, moi j'ai fait ça dans ma vie, il s'est passé ça dans ma vie, et donc j'ai envie, mon fils, que tu ne fasses pas la même erreur. Ne fais pas la même erreur. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans la situation de la mienne à son âge. Et donc l'éducation, l'apprentissage est autant important, même dans la permission de faire des erreurs. Et là, c'est là que nous tous, tout âge, toute génération, doivent venir et rester présents. Parce que le jour où ils ont besoin d'une aide et d'un miroir sur ce qui s'est passé, il faut que l'on soit là. Le fait de dire « Ah, écoute, t'as choisi, tu te débrouilles maintenant. Allez, hop, basta !» Fais de moi quelqu'un qui aurait bien aimé avoir un fils comme j'avais prévu. Ce qui n'est pas le cas. Par contre, comme Jésus, accueillant tous ceux qui ont des soucis, ont des questionnements, ont besoin de se retrouver dans quelque chose de sécurisant, nous avons le devoir de faire cela en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant que grands-parents, en tant que coach, en tant que tout ce qui me permet d'accueillir l'enfant ou le jeune tel qu'il est. Alors oui, c'est vrai que Timothée a été un enfant, un jeune, un enfant chéri, comme on dit, un jeune en vue de tout ce que Paul attendait. Et lorsqu'il nous a été lu, « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à tes personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Nous sommes tous, les uns les autres, à aider et à partager cette instruction. Chacun a un domaine différent, chacun a des capacités différentes, chacun a des éléments différents de la vie, mais nous sommes ici à disposition pour être à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Alors que ce soit pour les bourgeons, les tisons, les qui en ont besoin. Alors que ce soit pour les bourgeons, les tisons, les explos, les compagnons. Alors que ce soit pour les bourgeons, les tisons, les explos, les compagnons, les aînés, les adultes, les seniors, l'objectif que le Seigneur nous demande aujourd'hui, comme il l'a demandé avant et comme il demandera jusqu'à son retour,